Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, nous voilà de retour avec Laetitia Barlerin, en pleine forme, ravie d'être en votre compagnie. C'est vrai que c'est un vrai plaisir que de vous retrouver tous les dimanches. On piaffe d'impatience tout au long de la semaine et on est très heureux d'être là. Donc vous le savez, 6h-8h tous les dimanches avec Laetitia. Laetitia qui est notre vétérinaire et qui est là pour répondre à toutes vos questions animaux. Tout à l'heure entre 8 et 10, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On parlera énormément de véhicules électriques, un spécial voiture électrique tout à l'heure entre 9 et 10. La Tiatia. Alors, tout à l'heure, on va découvrir l'association Gamelle Pleine pour venir en aide aux SDF et leurs chiens. On va s'intéresser aux loups qui seraient peut-être aux portes de Paris. On découvrira en toute fin de ce rendez-vous animaux un témoignage étonnant. Un chat qui revient à la maison après 10 ans d'absence.
Et qui revient tout seul, là.
Incroyable.
Parce qu'on a déjà eu le témoignage d'une personne qui avait retrouvé son chat 10 ans après, mais le chat avait été retrouvé par une autre personne, il était tatoué ou plus, je sais plus.
Mais là, il est revenu.
C'est lui qui est revenu.
Incroyable.
Incroyable.
On écoutera attentivement ce récit tout à l'heure. Et puis notre vidéo Lodcat que Aurélie et vous-même, Laetitia, avez choisi. Je viens de la voir, elle est vraiment très drôle. C'est un chien farceur.
C'est un chat, voilà, qui joue.
Oui, qui joue.
Dans la neige, voilà. Avec son copain chat.
Son copain chat. Mais il y a un moment où ils sont un peu moins copains. Ça ne dure que quelques secondes, hein. Mais c'est très drôle. Franchement, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Toujours notre super week-end à remporter dans le sud de la France. On en reparlera aussi dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, Laetitia, direction Las Vegas.
Ah, vous le savez, vous le connaissez bien, ce CES, hein, qui est le salon mondial du high-tech,
oui.
Où l'on voit encore cette année les animaux ont inspiré les créateurs.
C'est
oui,
dingue, ça.
Nos animaux sont aussi connectés et de plus en plus.
Mais il faut dire que ça représente un business incroyable. Hein. On sait que les animaux de compagnie...
Ah bah, ils font partie de la famille.
Ils font partie de la famille.
Donc,
et
voilà.
Que forcément, si on peut trouver des objets connectés pour leur faciliter la vie et nous faciliter la vie...
Surtout nous.
C'est tant mieux.
C'est tant mieux. Et nous en parlons avec Adrien Ducousset, qui est fondateur du site Wamiz. Vous savez, c'est le premier site en France et en Europe sur les animaux de compagnie. Adrien, bonjour.
Bonjour Adrien.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Alors, au départ, les seuls objets connectés étaient les simples GPS qu'on fixait au collier.
Oui.
Ça a été vraiment les premiers objets connectés. Alors en plus, c'est vrai qu'au départ, c'était de gros et lourds GPS que seuls des gros chiens pouvaient porter. Alors, où en est-on aujourd'hui de ces GPS?
Alors sur les GPS, en fait, il y a eu beaucoup d'évolution et de progression puisque ça s'est beaucoup miniaturisé. Effectivement, Laetitia, maintenant, ils sont de plus en plus petits. Après, il existe vraiment deux types d'objets connectés pour éviter de perdre son animal et surtout le retrouver. Ce sont les GPS, donc qui marchent avec une carte SIM et un abonnement. Donc par contre, là, au niveau du coût, on reste toujours sur un produit qui coûte assez cher,
oui.
Surtout avec un abonnement mensuel. Puisque comme un abonnement téléphonique, il faut payer l'abonnement
de
la carte SIM pour pouvoir localiser l'appareil. Après, il y a d'autres technologies qui sont développées, il y en a d'autres qui vont arriver, comme celle qu'utilise WisTiki, qui est en fait le Bluetooth, mais qui ne permet pas forcément de localiser quand l'animal est parti très loin. En fait, ça se base sur un réseau de personnes qui ont l'application et qui vont permettre de tisser en fait un réseau secondaire et permettre de retrouver l'animal.
Mais ça sous-entend que les gens aient installé l'application, quoi. Ce qui réduit quand même.
Ça réduit énormément la chance de retrouver l'animal, surtout si c'est en pleine forêt où personne ne sera avec l'application.
Mais on a encore des applications. Enfin, concernant les GPS, c'est encore un peu cher. C'est peut-être ce qui freine aussi. Parce que ils sont de plus en plus petits.
Oui, c'est vrai.
C'est parce qu'au départ, on pouvait pas, par exemple, mettre de GPS sur un chat parce que c'était trop gros, quoi. Ou alors, fallait un Maine Coon très gros. Mais il y a encore le frein de. Est-ce que ça va diminuer les prix?
Les prix sûrement et les tailles aussi, mais pour l'instant c'est vrai que ça reste encore essentiellement pour les chiens.
Oui.
Et il y a quand même une barrière budgétaire qui est non négligeable parce qu'il faut quand même compter un investissement de l'ordre de 150 à 200 euros, oui, plus éventuellement l'abonnement mensuel.
D'accord. Alors, on parle de collier connecté, mais alors là, on va plus loin en matière de collier connecté. Alors, on a la fonction GPS, mais on a encore d'autres fonctions qui apportent une foule de renseignements en instantané sur son chien.
Alors effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, surtout aux États-Unis, mais on peut être fier aussi au niveau de la France, puisqu'on a quelques projets très prometteurs. Et c'est vrai que maintenant, les colliers, alors en plus ou à la place, parce que certains ne font que des infos santé, vont être capables d'avoir le pouls de l'animal, sa température, suivre son activité, s'il a dormi, la distance qu'il a parcourue, le nombre de pas. Donc on commence à avoir, un peu comme les humains, beaucoup, beaucoup d'informations très précises sur l'activité et la santé de l'animal. Après, au-delà de ces prouesses technologiques, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de donner du sens à ces données. Parce que de savoir que son chien a fait 4700 pas, c'est bien, c'est pas bien. Que son pouls est de 143, c'est bien, c'est pas bien. Donc là, c'est plutôt les vétérinaires et les spécialistes comme vous, Laetitia, qui peuvent apporter, je pense, cette pertinence et cette analyse, parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces infos, mais qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce que le chien va bien?
Exactement.
Aussi qui... Donc, il n'y a pas que la prouesse technologique, c'est vraiment la valeur ajoutée et l'analyse qui peut être apportée avec ces outils.
Oui, sinon, ça reste du gadget, quoi.
C'est ça.
Voilà. Exactement.
Mais c'est ce qu'apporte peut-être le collier Jagger et Lewis, non?
Oui,
dont on avait parlé en
exactement.
Avant-première, Laetitia, il y a quelques mois, et que j'ai vu, moi, au CES de Las Vegas.
Et alors
ce collier qui analyse, en fait, le comportement du chien. Et c'est étonnant parce que il va détecter un comportement anormal du chien. Par exemple, il dort trop ou s'il boit trop. Parce qu'en fait, dans le collier, il y a des capteurs qui vont détecter les mouvements que fait le chien. Et dès qu'il y a des moments, on va dire, un peu suspicieux, qui sortent un petit peu du quotidien, eh bien là, vous allez être alerté parce que ça veut dire que le chien ou boit trop, ou dort trop, ou mange trop, ou ne bouge pas assez. Et c'est vrai que vous, en tant que vétérinaire, ce sont des comportements que nous, on peut pas forcément déceler, mais si ce collier peut nous lire, ça a du sens.
D'autant plus que ces colliers sont de plus en plus en référence par rapport à une race, parce que bon, il y a des races qui dorment plus que d'autres races, il y a des races plus actives que d'autres, et puis ça dépend de l'âge de l'animal, s'il est castré ou pas. Donc c'est tout des données aussi qui doivent être comparées, hein, parce que c'est pas seulement comme vous dites, Adrien, de savoir le nombre de pas qu'a fait le chien dans la journée ou le nombre de calories qu'il a dépensé. Après, ça dépend de l'individu, de sa race, de son âge. De son mode de vie, etc. Et c'est ça qu'il faut comparer. Et c'est vrai que les start-up françaises sont très au point là-dessus.
Alors après, il y a aussi un point sur lequel il faut faire assez attention, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans des logiques de crowdfunding et qui promettent mondes et merveilles, mais il faut attendre de voir vraiment le produit fini.
Exactement.
Et nous, sur Wamiz, on a souvent parlé de produits très prometteurs, notamment aux États-Unis. Et je regardais justement où ça en était. On a beau en avoir parlé il y a un an, deux ans. Le produit n'a toujours pas vu le jour. Donc on y vient, c'est sûr, il y a des belles choses qui arrivent. Et notamment, il y a un collier qui s'appelle Kion, je crois qu'il est développé par les Américains, qui est très prometteur, alors qu'il combine justement toutes ces données santé et aussi GPS. Il a notamment une fonctionnalité où il voit le taux d'humidité, donc pour permettre de savoir, par exemple, si le chien serait tombé dans un lac ou en train de se noyer. Donc vraiment, il va très très loin.
Ou dans la piscine, oui.
Exact, ou dans la piscine, tout à fait. Donc c'est assez prometteur, mais après, il faut voir et pouvoir tester.
Oui.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous aussi, tester tous les produits pour voir l'efficacité.
C'est vrai
qu'au CES sont souvent présentés des concepts.
Oui.
C'est le cas, par exemple, du collier Jagger Lewis qui en fait rentre en crowdfunding dans les jours qui viennent. Ça veut dire que là, ils cherchent un financement pour pouvoir créer le collier. Et il sera disponible donc dans plusieurs mois si tout va bien.
Voilà,
c'est ça. Donc là, c'est pas des colliers qu'on peut d'ores et déjà acheter, quoi.
Exactement. Non. Alors, on a aussi des distributeurs de croquettes qui sont de plus en plus high-tech. Hein,
ça existe déjà.
On parle de gamelles connectées. C'est quoi une gamelle connectée?
Alors justement, François, vous avez peut-être vu au CES aussi, il y avait une autre start-up française qui a développé Catchpad.
Oui, sont de Toulouse.
Ils sont très sympas,
ouais.
Ils sont vraiment pleins d'énergie et avec un très beau produit. Là aussi, ils ont lancé une campagne de crowdfunding qui est déjà en ligne et qui rencontre un vif succès. Alors là, c'est pour les chats, pour le coup, et c'est une gamelle qui fait à la fois gamelle pour la nourriture, mais aussi pour l'eau, et qui va tout justement permettre d'automatiser en cas d'absence. Donc on peut distribuer à distance l'alimentation, l'eau, quoi, tout est paramétrable, la quantité, et surtout ça va enregistrer tout ce que va prendre le chat, c'est-à-dire tant en termes de nourriture que d'eau. Donc on a vraiment toutes les données précises. Et surtout, ce qui est assez habile, c'est que tout ça est connecté, c'est-à-dire que le chat a autour de son collier une puce qui permet de distribuer, parce que si vous avez plusieurs chats, comme ça, vous pouvez même savoir quel chat a mangé quelle quantité et sans aucune erreur.
Donc c'est vraiment super, parce que
un beau produit.
Pour suivre justement la quantité d'eau, c'est très important pour nous en tant que vétérinaire de savoir est-ce que le chat boit plus ou moins, parce que c'est un indice éventuel de un premier symptôme d'une maladie. Et puis pour la quantité aussi de nourriture, c'est important aussi pour suivre le poids de l'animal, parce que par exemple le chien, on peut peser, on sait très bien la quantité de croquettes qu'il faut lui donner. Oui. Le chat, faut pas le restreindre, donc c'est à lui de prendre les croquettes qu'il a besoin.
C'est à volonté, en fait.
Et il faut toujours les laisser à volonté, donc ça c'est super. Et ça aussi, c'est juste en financement participatif.
Tout à fait. La campagne a commencé juste après le CES et se termine, je crois, dans 2 semaines à peu près. Donc, je pense que les premiers produits arriveront courant de l'année 2017. Moi, j'ai vu un prototype, mais qui reste un prototype. Et en tout cas, je vous dis, ça, c'est vraiment la promesse répond. Le produit répond à la promesse faite, en tout cas, par les fondateurs.
Nous, en tout cas, vétérinaires, on est très intéressés par tout ça. Est-ce qu'il y a même des litières connectées?
Alors, vous savez quoi, Adrien et Laetitia, on va parler de la litière connectée que tout le monde attend, bien sûr.
Et oui, à quoi sert-elle?
À quoi sert la litière connectée? Parce qu'elle doit être étanche aussi, j'imagine, la litière connectée. On en parle Adrien, bougez pas, on en parle dans un instant. 7h20, vous savez, je fais du teasing, comme on dit en radio, parce que vraiment tout le monde attend savoir ce qu'apporte cette litière connectée. Et on en parle dans une minute, à tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h22, le retour du week-end des experts, les animaux et la high-tech. Ce matin, on visite avec Adrien Ducousset le CES de Las Vegas, qui est le grand rendez-vous du début de l'année dédié aux nouvelles techno, hein, Laetitia.
Voilà.
Où on parle objets connectés pour animaux.
Voilà, et nous sommes donc avec Adrien, qui est fondateur du site Wamiz.
Alors cette litière.
Les litières connectées, c'est quoi? À quoi servent-elles?
Alors, les litières connectées, moi j'en ai identifié deux. Il y en a une première qui s'appelle Smart Kitty, qui est plus une litière qui permet de s'auto-nettoyer.
Ça.
Voilà, donc c'est surtout un côté pratique, effectivement, François, où vous allez être informé, vous pouvez régler à distance la fréquence de nettoyage via un sorte de balai, un sorte de râteau qui est intégré dans la litière. Mm-hmm. Et ça vous permet aussi de vous rappeler quand est-ce qu'il faut changer la litière. Donc voilà, on est plus sur la praticité que pour le bien-être. Et il y a un autre projet qui a été lancé, qui s'appelle Tylo, où c'est une litière connectée plus orientée justement sur le bien-être, où là, qui va intégrer des capteurs pour savoir justement le poids du chat, notamment suivre son évolution, est-ce que il est en bonne santé. Donc c'est là, on est moins sur le côté pratique, puisqu'il n'y a pas notamment de râteau qui permet un auto-nettoyage, mais c'est vraiment des capteurs liés à la santé.
Et qui capte, ça veut dire qu'ils analysent un petit peu l'urine aussi?
Alors, ça faisait partie des projets, mais là aussi, on était sur un projet Kickstarter avec beaucoup de choses qui restaient un petit peu vagues. Mais ils axaient en tout cas vraiment sur le côté santé et pas pratique. Donc, mais c'est possible qu'il y ait des capteurs pour l'urine pour justement vérifier si le chat est en bonne santé.
Est-ce qu'il y a des jouets connectés? Parce que là, c'est que pour nous, là, tout ça. Là. Enfin, c'est pour. Est-ce que l'animal peut profiter d'un jouet connecté, justement?
Alors ça, c'est peut-être avec les GPS, les deux catégories qui ont le plus d'avance. Et là, pour le coup, sur les jouets connectés, ils existent vraiment. Notamment, il y a le Pet Cube, qui est en fait un cube qui intègre une webcam et un pointeur laser qui vous permet de jouer avec votre chat ou votre chien, d'ailleurs.
C'est-à-dire on est au bureau et avec son smartphone, on dirige le pointeur laser.
Exactement. Et vous pouvez interagir et donc vous voyez tout grâce à la webcam. Vous pouvez parler aussi. Donc ça, c'est un produit qui a été lancé il y a déjà 2 ans, je crois. Et il y a le Pet Chaz qui est une sorte d'interphone évolué, puisque c'est pour parler et communiquer avec son chien ou son chat ou son animal. Et vous pouvez aussi à distance via cet interphone distribuer une friandise. Donc il y a un côté un peu ludique aussi par rapport à ça.
Pour moi, c'est plus gadget, ça.
C'est plus gadget, mais c'est surtout, je trouve, des objets qui permettent de maintenir le lien avec l'animal, bien qu'on soit pas là, et d'une certaine manière combler son absence. Donc c'est vraiment dans le, je vais pas dire le futile, mais en tout cas le ludique et divertissant pour l'animal, pour essayer de voir aussi si tout va bien quand vous n'êtes pas là, et combler aussi, je pense, une certaine curiosité où on se pose toujours la question, mais que fait mon animal quand je suis pas là?
Ça, c'est bien ça.
Il y a eu le film là, Comme des bêtes, qui était sorti, qui était très marrant, mais on est toujours là à se demander, se poser des questions. Ah bah, et là, avec ça, vous pouvez justement arriver à voir ce qu'il en est réellement, et donc c'est assez sympa. Il y a aussi une balle, mais qui est toujours en projet de crowdfunding, qui s'appelle Playball, et qui vous prenez contre le balle à distance, et avec une webcam, et vous pouvez vraiment vous promener dans tout l'appartement avec, et qui doit sortir la cour en mars.
Ça veut dire que c'est une balle qu'on dirige avec son smartphone?
Exactement.
Incroyable.
Exactement.
Ça, c'est chouette. Mais ça existe déjà pour des. Enfin, il y a déjà des petites balles comme ça qu'on peut diriger avec son smartphone. C'est assez drôle. Elles sont très lumineuses, etc. Donc, c'est. Bon. Je pense que ça peut arriver parce que technologiquement, ça marche.
Alors,
donc,
voilà. Tout à fait. Adrien ou François, est-ce que vous avez vu une machine qui traduit les aboiements ou les miaulements? Parce que ça, on nous l'annonce chaque année que peut-être que ça va arriver. Mais est-ce que vous l'avez vu ou pas?
Alors, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu.
Moi, j'en ai entendu parler, mais il me semble que nous, sur One News, on avait fait ça en blague du 1er avril. mais comme quoi la fiction rattrape la réalité. J'ai entendu ce projet, mais qui me paraît... Alors moi, pour le coup, je suis vraiment pas vétérinaire. Je sais pas si on peut arriver à transposer des aboiements ou des miaulements en langage humain.
Non.
Ce qui me paraît un petit peu loufoque. Non,
mais ça, c'est complètement bullshit, là, je pense.
Ouais,
hein.
Chaque animal a son accent, donc déjà, et son aboiement et son miaulement, et c'est vrai que c'est pas... Non, vaut mieux observer son animal, mieux le connaître, que d'avoir une petite machine qui essaye de traduire ce que veut nous dire l'animal. Et de toute façon, il sait très bien s'exprimer, l'animal, face à nous pour nous exprimer des choses. Voilà.
Adrien, merci
beaucoup.
Merci, voilà, il y a un petit dossier qui vous attend sur Wamiz, hein, sur les objets connectés. Donc, voilà, pour les animaux.
On mettra le lien.
Wamiz.com.
Et ce qu'on disait, c'est que les startups françaises, elles étaient très présentes au CES, et elles sont très actives concernant les objets connectés pour les animaux.
Tout à fait. Et vous savez quoi, Laetitia, on essaiera de recevoir un de ces jours le fondateur de Catspad, qui est justement ce petit système de distribution de croquettes et d'eau connectée.
La gamelle connectée.
Voilà, c'est des gens de Toulouse qui sont très gentils. On les recevra un de ces jours. On revient après la météo et les infos, Laetitia, à 7h30 bientôt. On va découvrir l'association Gamelle Pleine. On va parler du loup qui serait peut-être aux portes de Paris. Et puis un témoignage étonnant tout à l'heure. Ce chat qui rentre à la maison au bout de 10 ans d'absence. Et il est rentré tout seul.
Tout seul.
32-16, animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Voilà, 7h34, c'est RMC, le retour du week-end des experts, les animaux à suivre dans ce rendez-vous animaux d'ici 8h. Eh bien, notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. On découvrira cette histoire incroyable de chat qui est rentré à la maison au bout de 10 ans, Laetitia. On va découvrir l'association Gamelle Pleine qui vient en aide aux SDF et à leurs chiens. Et Dieu sait si en ce moment ils en ont besoin.
Eh oui.
Mais dans l'immédiat, on va parler du loup qui serait peut-être là, à quelques kilomètres de l'endroit où on fait cette émission.
Est-ce que le loup est aux portes de Paris?
Oui,
plus avec Eric Hansen, qui est responsable des régions Centre et Île-de-France pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
C'est Eric. Un spécialiste des loups, Eric.
Bonjour.
Bonjour.
De la faune sauvage.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que cette semaine, deux associations, l'Observatoire du loup et Alliance avec les loups, c'est des associations pro-loups, sont formelles et ont affirmé donc cette semaine que avoir des indices qui indiquent que le loup serait présent en région parisienne. Alors, est-ce qu'il est présent en région parisienne?
Écoutez, il est peut-être présent. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas été amenés à constater nous-mêmes ou lorsque les gens nous ont rapporté un certain nombre d'informations dans le cas de cadavres, on y reviendra peut-être, de chevreuils, nous n'avons absolument pas pu attester que les traces qui ont été trouvées peuvent appartenir donc au loup.
Voilà, bah, c'est-à-dire que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a des données, a des experts. Mmh. C'est vous qui suivez les populations de loups en France, c'est ça?
Tout à fait. Le ministère de l'Environnement nous a chargé d'assurer le suivi du loup. Donc nous avons mis en place un réseau de plus de 2000 personnes avec des naturalistes, des chasseurs, des biologistes. Et donc au travers de ce réseau, dès qu'il y a des informations de suspicion de présence de loup, nous pouvons aller sur place pour vérifier si les observations qui ont été faites correspondent bien à du loup. Et pour l'instant, dans tout ce qui a été mis à notre connaissance pour la région parisienne, en aucun cas nous pouvons dire que le loup est là.
Bah, c'est-à-dire que l'association a présenté, une des associations a présenté une vidéo où on voit un chevreuil mort et sans tête. Et le président de l'association dit « bah ça c'est une signature du loup ».
Oui, mais justement, ça fait partie des indices justement qui nous font dire que c'est pas du loup, puisque c'est vraiment une signature classique du renard. Le renard, au même titre que les chiens, lorsqu'ils vont enterrer un os pour les périodes de disette, le renard est classiquement va récupérer des parties et souvent la tête de l'animal qu'il va enterrer. Et c'est en aucun cas la signature du loup. Donc,
vous avez vu ce cadavre de chevreuil, vous l'avez vu, vous l'avez.
Tout à fait, nous avons vu les deux cadavres de chevreuil, donc nous avons pu les examiner et nous sommes en mesure d'attester que ce n'est absolument pas la signature d'un loup.
Alors, ils ont parlé aussi d'une tanière en région parisienne, de hurlements aussi entendus en forêt de Rambouillet. C'est quand même à côté de Paris.
Écoutez, oui, nous avons été informés de tous ces éléments. Il se trouve quand même que nous sommes assez dubitatifs. Des hurlements de loups en région parisienne, pourquoi pas? Dieu sait si les forêts parisiennes sont fréquentées. C'est parmi les plus fréquentées de France. Personne d'autre ne nous a rapporté d'hurlements de loups. Donc, apparemment, ce sont les seuls à avoir entendu des hurlements de loups.
Peut-être ce sont certains Parisiens qui crient, qui imitent les cris du loup dans les forêts parisiennes après.
C'est pas impossible.
On peut s'attendre à tout.
Non, mais moi qui ai dormi à côté de chiens de traîneau, la nuit, c'est vrai que quand les chiens de traîneau hurlent, on
a l'impression d'entendre des loups.
Presque, voilà, si on ne connaît pas bien, on se dit, c'est peut-être des loups. Ça peut être ça aussi.
Veut dire que si par exemple un Parisien a des huskies qui sont en forêt, il pourrait peut-être crier comme des loups.
Pourquoi pas?
Ouais.
Non, parce que le l'hurlement du loup est un hurlement bien particulier.
D'accord.
Donc pour les Parisiens qui n'ont jamais entendu un loup.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils peuvent confondre.
C'est possible. Alors après, on parle de tanière. Tanière voudrait dire qu'il y a une meute. Donc s'il y a une meute qui est installée, il faut savoir qu'une meute consomme à peu près un animal par jour. Donc,
il y aurait des traces.
Vous imaginez que des cadavres dans un milieu extrêmement fréquenté, des cadavres de chevreuils, des cadavres d'animaux, on en trouverait pléthore. Et là, on parle de deux cadavres de chevreuils, sachant qu'on a eu en plus une épidémie de maladies dans toute la région, avec beaucoup de chevreuils qui sont morts. Et il se trouve que ces deux chevreuils sont morts de maladies et par la suite ont été consommés par des renards, puisque les renards classiquement vont manger des cadavres d'animaux.
Alors, quels sont les effectifs de loups en France pour faire un petit peu un bilan? Où vivent-ils alors?
Alors, le bilan, donc à ce jour, donc nous mettons à jour régulièrement donc les différentes données que nous avons par l'ensemble des informateurs. À ce jour, il y a à peu près 300 loups en France.
Oui.
Il est présent, donc il est arrivé, comme vous le savez, donc par l'Italie. Il est présent donc dans le sud-est, il est présent dans les Alpes, il est présent dans les Pyrénées, dans le Massif central, également dans le nord-est. Donc on voit que le loup est en train de...
Il s'approche quand même de l'Île-de-France.
Il se rapproche. Donc le dernier cas que nous avons pu attester, c'est un loup qui était dans la Nièvre, enfin des loups dans la Nièvre qui ont procédé à des attaques et nous avons pu attester qu'il s'agissait bien de loups. Donc effectivement, le loup remonte et par le nord et par l'est de la France et se rapproche effectivement de l'Île-de-France
et
de la région centre.
Et à plus ou moins long terme, est-ce qu'on aura des loups en région parisienne?
Biologiquement parlant, le loup devrait recoloniser à peu près toutes les régions de France, puisqu'il était présent dans toutes les régions de France. Il a été décimé par l'homme dans les années 30, mais il était présent partout avant, ce qui n'est pas le cas de l'Italie ou de l'Espagne, qui ont toujours eu des loups, qui ont toujours vécu avec les loups, avec des densités à peu près 2000 loups en Espagne, 1000-1500 loups en Italie. Donc eux ont toujours vécu avec les loups, sans que ça pose d'ailleurs le moindre problème.
Bah, c'est-à-dire, moi j'ai lu pas mal de réactions de parents qui sont inquiets, en se disant, mais je pourrais plus aller dans les forêts franciliennes s'il y a des loups avec mes enfants, parce qu'ils vont être attaqués, alors il faut les rassurer quand même.
Mais oui, mais vous comme moi, vous comme comme moi, on a été bercé par le petit chaperon rouge, par le grand méchant loup. Et je pense que dans la conscience ou l'inconscience, ben, le loup signifie danger. Et le fait que le loup ait disparu depuis les années 30, on a perdu complètement l'habitude que le loup puisse être présent et fait partie de la faune française. Et effectivement, il faut qu'on réapprenne à vivre avec cet animal.
Et qui est inoffensif pour l'homme.
Qui pour les populations donc européennes. Alors après, il y a eu quelques problèmes d'attaque de loups en Amérique du Nord. On a affaire à des loups qui sont beaucoup plus gros. On n'a pas du tout affaire aux individus de même poids. Donc il y a eu dans des cas bien particuliers, dans des conditions de personnes isolées, dans des conditions climatiques difficiles, il y a eu des attaques. Ça c'est très clair.
En Amérique du Nord.
En Amérique du Nord, et lorsqu'on fait appel à la mémoire, puisqu'il y a eu des attaques assez nombreuses de loups en France, on avait à l'époque la rage qui était extrêmement présente, et il se trouve que la majorité des attaques étaient dues à des loups qui étaient enragés.
Et voilà. Et la rage qui, bien sûr, n'existe plus en France. Voilà.
C'est ça.
Éric, merci.
Merci. Bon, ben, on est rassurés. Enfin, on est rassurés, non, parce que ça serait bien aussi que les loups soient un petit peu... Voilà. en France, quand même.
Oui,
un peu
c'est
plus.
Vrai. Bon, en tout cas, merci Éric pour ce témoignage. Alors après, on raconte que Jean-Luc Moreau parfois hurle à la mort dans les bois le samedi soir.
Jean-Luc, alors.
Non, mais faut qu'il y ait des indices hein, quand même. Est-ce qu'il a du poids?
Nous tiendrons informés, nous communiquerons.
Mais c'est vraiment le samedi. C'est vraiment le samedi.
Des indices fiables, nous rendrons compte. Ne vous inquiétez pas.
Merci.
Mais bon, si c'est plutôt le samedi soir et que c'est Jean-Luc, là, on est plutôt rassuré. C'est pas un vrai loup. Hein.
C'est le loup-garou.
C'est autre chose. Après, je ne dois pas savoir pourquoi il crie comme ça, il hurle à la mort. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Merci beaucoup Eric.
Merci, bon dimanche.
Laetitia, rappelons quand même aussi le magnifique cadeau que nous offrons. Je vous rassure, à Saint-Cyr-les-Lec, à côté de Bandol, il n'y a pas de loups. Peut-être
oui,
des loups de mer. Peut-être des loups de mer.
Mais de toute façon, ils ont peur de l'homme,
en plus.
Vous les verrez jamais.
Moi, j'adorerais voir des loups.
Ah bah oui, mais justement, ils font tout pour qu'on les voit pas.
Bien sûr. Et donc, on vous offre un séjour de 2 jours à l'hôtel Dodge et Frégate Provence. C'est à Saint-Cyr, sur mer. C'est dans un cadre superbe, hein. C'est au cœur de la Provence, à surplomb la mer Méditerranée, hein, ce bel établissement, avec plage de sable fin, piscine, etc. Il y a même un vignoble. Et on vous offre donc un séjour dans ce 4 étoiles sur les hauteurs de Bandol. Pour tenter votre chance dès maintenant, vous nous envoyez tout simplement le mot « animaux ». Vous tapez « animaux » sur votre mobile et vous envoyez ça au 732-16. « Animaux » sur votre mobile au 732-16 par SMS et vous participerez au tirage au sort. Franchement, vous passerez un beau séjour. Alors on va attendre un petit peu que les températures remontent, mais ça sera vraiment très agréable. Vous restez avec nous Laetitia, dans un instant on va découvrir l'association Gamelle Pleine qui vient en aide aux SDF et à leurs chiens. A tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Laetitia Barlerin, toujours à mes côtés, merci d'être là et bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 8h moins le quart, ce dimanche matin, nous sommes le 22 janvier 2017. J'espère que tout va bien. Notez que dans quelques minutes après la météo et les infos de 8h, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. 2 heures dédiées à l'automobile et un spécial véhicule électrique tout à l'heure avec notamment l'essai de la nouvelle Zoé électrique qui promet 300 km d'autonomie. Est-ce qu'on va y arriver? Jean-Luc nous dira tout à l'heure. Laetitia, dans quelques instants, on découvrira le témoignage étonnant de Nicolas, qui est propriétaire de Smokey. Alors Smokey, c'est un chat dont il avait perdu la trace pendant 10 ans.
Et qui est revenu...
Incroyable.
Gratter à la porte de la maison quand même.
Voilà.
Tout
ça,
seul.
Ça sera dans une minute. Mais auparavant, on va découvrir l'association Gamelle Pleine.
Voilà, une association qui vient en aide aux SDF, mais aussi à leurs chiens. Et nous sommes avec Johan Sever. Johan, bonjour, président de l'association. Johan, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Alors, votre association, depuis 8 ans, vient en aide aux sans-abri et à leurs animaux de compagnie, hein, les chiens pour la plupart. Vous opérez à Caen, mais aussi à Rennes, à Montpellier. Alors pourquoi, pour vous, c'est important de s'occuper de la personne en difficulté et de son animal?
En fait, on a remarqué que déjà le chien apporte de nombreux bienfaits à l'homme. De façon générale. Et ces bienfaits sont décuplés quand on est dans la difficulté ou l'épreuve.
C'est vrai.
Et c'est d'autant plus vrai quand les binômes maître-chien sont dans la rue pour les sans domicile fixe. C'est un lien à la vie, c'est une responsabilité, un lien social, une source de fierté, de chaleur, de la sécurité. Enfin, les facettes du chien sont très très nombreuses Et chaque personne que l'on aide va voir dans son chien quelque chose d'unique et effectivement va se priver pour pouvoir garder cet animal près de lui.
Et j'ai remarqué qu'il y avait une symbiose, une vraie symbiose, hein, je parle de symbiose entre le sans-abri et son chien, parce qu'ils vivent 24 heures sur 24 ensemble, et qu'il y a, le chien est vraiment très proche de son maître, il l'écoute parfaitement, c'est une relation un peu unique.
C'est pour ça qu'on parle de binôme vraiment complet, c'est-à-dire que des fois le chien devient l'extension du maître, le maître se reporte même dans son chien. Alors vous imaginez quand on essaie de leur parler de stériliser l'animal, c'est compliqué puisque c'est comme si on leur parlait de les stériliser eux-mêmes.
Ah oui, c'est vrai.
Ils sont très très connectés sur leur chien et des fois quand on vient caresser leur chien sans même leur demander autorisation, c'est comme si on venait les caresser eux-mêmes. Et ils ont vraiment ils vivent l'un pour l'autre et l'un avec l'autre.
Alors en pratique, vous intervenez comment auprès des maîtres en difficulté ?
Alors nous, en pratique, on n'a qu'un seul objectif, c'est utiliser les quatre pattes du chien pour relever le maître. Oui. Donc nous, on intervient alors d'abord sur des missions très simples qui sont de la nutrition, s'assurer que quand le SDF reçoit un sandwich, il y a aussi une gamelle pour son chien et qu'il ne soit plus obligé de le diviser en deux avec son animal.
Et oui, parce que bien souvent, il se sacrifie pour les nourrir.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, le chien mangera toujours avant eux, ce qui n'est pas tout à fait la logique, mais pour eux, dans leur logique en tout cas, l'animal doit manquer de rien, quitte de se priver eux-mêmes.
Voilà. C'est fou ça.
C'était fort de ce constat-là qu'on s'était dit, il faut faire quelque chose.
Et vous faites des maraudes hein, avec d'autres associations comme la Croix-Rouge.
Voilà, c'est ça. Alors nous, on maraude toutes les semaines et on fournit aussi les maraudes régulières tous les soirs en équipement, c'est-à-dire croquettes, gamelles, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir intégrer l'animal dans l'aide sociale et s'assurer que quand on va s'adresser à un binôme, on n'oublie pas qu'il a un quatre pattes à côté de lui.
Alors, voilà. Le problème des sans-abri qui ont des chiens, c'est que quand on leur propose un centre d'hébergement, ils refusent parce que ces centres d'hébergement ne veulent pas d'animaux. Donc, ils préfèrent rester dans la rue avec leur animal, même avec ses températures très basses, plutôt que de l'abandonner pour aller dans ce centre.
Oui, tout à fait. Alors, le problème n'est pas tout à fait tant le fait qu'ils refusent. C'est que pour eux, c'est jamais sans mon chien. Et donc le souci, c'est qu'on leur fait des propositions qui ne sont pas du tout adaptées à leurs besoins et à leurs envies. Alors aujourd'hui, sur Caen, on a beaucoup changé dans ce sens-là, puisque tous les centres d'accueil accueillent l'animal. Ah. Et c'est pas encore le cas dans toutes les villes de France, bien malheureusement.
Et est-ce que vous avez fait justement des actions pour que soient acceptés ces chiens dans ces centres ?
Oui, tout à fait. Alors on a travaillé avec les centres, avec le 115, avec les maraudes de Trait d'Union, pour justement apporter cette réponse adaptée. Donc il suffisait de fournir des paniers au centre, de fournir des petits panneaux attention chien pour mettre sur les portes des chambres où sont accueillis les animaux, réserver les chambres du bas par exemple. Donc c'était des actions très simples qui cumulées tout ensemble ont permis l'accueil dans de très bonnes conditions des animaux, que ce soit au niveau de l'hygiène ou de la sécurité des autres pensionnaires. Il suffisait juste de s'adapter.
Alors aujourd'hui à Caen, vous organisez la seconde édition d'une opération que vous avez appelée les Rois de la Rue. C'est une journée un peu particulière où vous proposez un relooking des sans-abri et de leurs chiens, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, on voulait fêter le nouvel an avec les plus démunis. On voulait leur présenter tous nos bons vœux. Et on s'était dit que mieux que des mots, il fallait plutôt des actes. Et donc, on est parti sur l'idée qu'il fallait commencer l'année avec une image positive d'eux-mêmes. Donc, on a fait venir des photographes, des toiletteurs, des coiffeurs, des éducateurs canins.
Oui.
Et l'objectif, c'est vraiment de passer une bonne journée dans une bonne ambiance avec des galettes de roi barbecue, avec de la musique, et de les relooker, leur redonner une image belle d'eux, pour que pendant toute l'année, après, on puisse s'appuyer sur cette image positive quand ils sont un petit peu plus démoralisés, leur dire, rappelle-toi, regarde la photo qu'on a faite. C'est toi ça. Mmh. Voilà, c'est toi qui es beau
ça
sur cette
photo. Ça sera où, à Caen ?
Alors, ça aura lieu à la fermeture éclair à Caen. C'est une petite salle de spectacle qui est au niveau du port.
Mmh.
Et donc, on y accueillera les SDF tout l'après-midi pour pouvoir leur redonner une beauté. Voilà.
Merci beaucoup, Johan Sever. Merci.
Alors, voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements, on va vous mettre le lien sur Facebook de cette association qui est pour l'instant sur Caen, Montpellier et Rennes. Et puis, je pense que vous allez aussi un peu ouvrir d'autres centres.
On l'espère, en tout cas.
Voilà, dans d'autres villes. Merci en tout cas, Johan. Merci. Association Gamelle Plaine.
Laetitia, on termine ce rendez-vous animaux avec cette histoire étonnante. Le témoignage de Nicolas Chauvel qui est avec nous. Il va tout nous raconter tout de suite. Il a retrouvé son chat.
Au bout de 10 ans.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Alors, c'est une histoire complètement incroyable quand même. Votre chat, alors il s'appelle Smokey, alors c'est un chat noir et blanc, voyez. Oui. Il est revenu tout seul après 10 ans d'absence. Dites-nous d'abord, il y a 10 ans, quel âge avait-il quand il a disparu et dans quelles circonstances il a disparu?
Alors en fait, c'est un chat qui avait déjà 2 ans. Hein. Nous l'avions eu tout bébé,
oui.
Porté de chez une de mes sœurs. Donc il est né en 2004, hein, 26 mai 2004, et puis nous habitions donc dans un autre appartement hein, à l'époque.
Oui.
Lorsque nous l'avons eu pendant 2 ans, puis nous avons déménagé.
Oui.
Lors de la naissance de ma fille. Donc le chat a suivi, évidemment.
Oui.
Et puis il a vécu avec nous dans le nouvel appartement pendant 6 mois.
Oui.
Jusqu'à ce fameux jour de juin de 2006. Il avait 2 ans. Quand, et un beau matin, il a disparu. Voilà.
Il est parti et plus aucune nouvelle pendant 10 ans.
C'est aucune trace, aucune nouvelle. On a eu beau mettre des affichettes dans le quartier, un petit peu partout. Pas de nouvelles du chat. Donc, bon, ben, moi, j'ai pensé à une issue plutôt tragique à l'époque. Hein.
Imagine.
Et du coup, bon, ben voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là.
Et quelques jours, quelques semaines avant Noël, cadeau inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le 15 octobre dernier, hein, alors que j'allais amener mon fils au foot un samedi matin,
oui.
Un chat était là à la porte, en train de miauler. Alors bon, un chat noir.
À votre porte?
À la porte de l'appartement, précisément.
De l'appartement en plus.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. Alors bon, sur le coup, bon, j'ai pas trop fait attention. J'ai bien vu qu'il miaulait comme s'il avait très faim, mais bon, on était un peu pressé, donc j'emmène mon fils au foot. On revient 2 heures après. Il était toujours là, toujours à miauler. Et,
devant là, votre coup, porte.
Devant la porte et à me regarder. C'est bizarre. Alors ma fille, entre-temps, qu'il avait entendu, lui avait donné à boire. Mmh. Je dis, tiens, c'est bizarre, ce chat-là, je l'ai vu quelque part. Je monte directement les escaliers pour retrouver un vieil album que j'avais. Et effectivement, sur les photos, il avait une particularité, ce chat il l'a toujours d'ailleurs, c'est qu'il a une petite tache noire au niveau des moustaches.
Oui.
Sa tête est blanche, mais il avait une mouche noire bien précise.
Donc il était vraiment reconnaissable.
Tout à fait, au niveau de la face, oui, tout à fait. Et notamment aussi, j'ai retrouvé des photos du dessous de ses pattes avec les coussinets. Alors, c'est des coussinets bicolores, hein, rose et noir, et ça correspondait. Alors, quand j'ai soulevé la patte avant, j'ai vu les coussinets bicolores, j'ai dit, là, il n'y a plus de doute, quoi.
C'est Smokey.
Donc, c'est Smokey, alors je l'appelle par son prénom.
Oui.
Il n'a pas spécialement réagi, Smokey, parce que ça faisait quand même 10 ans qu'il était parti, certainement qu'il avait été renommé. Mais par contre, ma femme me dit lundi, il faut absolument que tu ailles chez le vétérinaire, donc pour faire vérifier quoi. Donc, qu'est-ce que je me suis empressé de faire le lundi soir.
Oui. Pour vérifier la puce électronique.
Voilà, ben si c'était bien notre chat Smokey.
Oui.
Et la vétérinaire, regarde si il avait un tatouage, pas de tatouage. Et puis ensuite, elle regarde s'il était pucé. Et cette fois-ci, le détecteur bip. Elle me dit, ah, vous savez, monsieur, il a une puce. Donc, le propriétaire, la personne qui a mis la puce devient propriétaire légal. Ouais, c'est que nous, on ne savait plus trop s'il avait été pucé. On savait qu'on l'avait fait opérer, on l'avait fait castrer à l'époque. Mais l'histoire de la puce, ça nous avait échappé un petit peu.
10 ans après, c'est sûr, oui.
C'est ça. Et puis, on n'avait plus le carnet, on n'avait plus rien, en fait. Et du coup, elle me dit, au bout de 10 minutes, après avoir téléphoné, elle me dit, ça y est, on a le nom de la personne, du propriétaire. Et en fait, il s'avère que c'était le nom de ma femme, quoi.
C'est dingue, c'est dingue.
Il vous a reconnu? Comment il a été? Il a reconnu la maison? Comment il a été avec vous?
Alors, je pense qu'il cherchait une personne précisément, et je pense que c'est ma fille, parce qu'il est tout de suite monté dans sa chambre. Alors, ma fille, à l'époque, elle avait 1 an et demi hein, quand il
c'est
est parti.
C'est incroyable.
Aujourd'hui, elle en a 11. Tout de suite, il est allé dans sa chambre. Il a pris un de ses vêtements et il s'est mis à faire. C'était assez bizarre, quoi. Mais on sentait qu'il était heureux d'avoir retrouvé cette odeur-là. C'était cette odeur précise. Et depuis, il dort toutes les nuits dans la chambre de ma fille, quoi.
Ça doit
merci
être super
Nicolas pour ce témoignage.
Vous rendez compte,
c'est incroyable, Laetitia. Merci, hein, Nicolas.
Merci, Nicolas. Vous rendez compte, c'est 10 ans après, il se souvient.
C'est fou.
Pour vous dire la mémoire des chats, il se souvient de l'endroit où il était. 10 ans avant, de l'odeur. Il se souvient de l'odeur de l'enfant qui avait 1 an et demi quand même.
Mais c'est incroyable.
C'est incroyable ça, qu'il revienne de lui-même. En plus, dans un appartement, c'est pas une maison. Il se souvient pas d'un jardin. Il se souvient d'un appartement et de l'odeur de l'appartement C'est incroyable.
C'est fou.
Merci
Nicolas,
pour
cette belle histoire qui fait du bien en ce dimanche matin un peu frisqué. C'est vrai que c'est toujours agréable ce genre de petite histoire. Laetitia, on se quitte avec notre vidéo LOLCA de ce dimanche matin.
Un
berger allemand avec un petit chat,
un
petit rouquin. Voilà, il s'amuse et puis tout d'un coup, le chien, avec sa patte, met carrément la tête du chat, mais dans la neige, si vous voulez. C'est comme si nous, on s'amusait à faire ça.
Et j'adore parce que le chien fait ça. Après, il donne une léchouille au chat, l'air de dire, ne m'en veux pas.
C'est
et
plus fort que moi.
Il s'en va vite fait parce qu'il sait que le chat
va lui en vouloir. C'est très drôle et c'est à retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur j'aime au passage. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. À dimanche prochain.
Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. À tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr. RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.